Chapitre 10. La cassure. Jeanne Blanc écrivait « Tâchez d'être à 5 heures au Luxembourg, sur la terrasse des Reines de France. Je pars ce soir. » Elles furent toutes les deux exactes au rendez-vous. Jeanne prit les mains de Thérèse d'un geste et d'un air de condoléance. « Ça n'a pas trop bien marché, » fit-elle. « Allons nous asseoir là-bas sous les arbres. Je vous dirai. » Thérèse la suivit comme le condamné qui va écouter sa sentence. « J'ai commencé très doucement, narra Madame Black. Je le préparais. Il s'est impatienté tout de suite. Il m'a demandé si j'étais autorisée par vous. J'avoue que cela m'a piqué au vif. Mon ton s'en est peut-être ressenti. »« Qu'avez-vous dit textuellement ? » s'écria Thérèse. « Textuellement, ce sera difficile. Je n'ai pas la mémoire des mots. J'ai fait allusion à notre conversation d'hier soir. J'ai répété l'expression « aventure fâcheuse ». Il s'est cabré violemment. « Votre intervention est-elle nécessaire ? » a-t-il fait, le sourcil froncé, l'œil assez noir. Et j'ai répondu « Oui, je le crois. Mon ami désire qu'il n'y ait aucun malentendu entre vous deux. » Elle estime qu'il est loyal de sa part de vous renseigner sur un passé très proche, sur une triste aventure qu'elle a eue à Londres. Il ne voulait pas me laisser continuer. Il prononçait des mots sans suite, il essayait de m'interrompre. Non, puisque j'avais déjà cassé les vitres, j'ai dit le reste. Thérèse a été trompée. Elle a cru qu'elle se mariait par licence spéciale, il n'en était rien. Au bout de quelques semaines, celui qu'elle regardait comme légalement son mari a disparu. Elle a traversé ensuite des mois de désespoir. Elle n'a commis aucune faute, sinon d'être trop confiante et ignorante. Eh bien, Thérèse, pouvez-vous imaginer qu'alors il n'ait réagi d'aucune façon, pas dit un mot, rien. Il serrait les lèvres. Il marchait en long et en large, regardant par terre. Je reconnais qu'il avait l'air absolument bouleversé. Au bout de 5 minutes, je suis partie. Que pouvais-je faire d'autre ? Thérèse, le visage dans ses mains, sanglotait. « Il faut vous contenir, » fit Jeanne à demi-voix. « Tant de gens passent ici. On nous regarde. Je ne vous quitterai pas dans cet état. Sortons du jardin, je vais prendre une voiture. Vous m'accompagnerez à l'hôtel, vous vous calmerez dans ma chambre pendant que je ferai ma valise. »«
J'aurais dû lui parler moi-même, il me mépriserait moins, » gémit Thérèse.
« Vous méprisez ? Je voudrais bien voir ça. » Au contraire, à moins qu'il ne soit un bien plein individu, il doit admirer votre droiture. Rien ne vous obligeait à cet aveu, puisqu'il ne vous avait pas encore fait de demande formelle.
Je lui aurais épargné cette humiliation, murmura Thérèse, qui suivait Jeanne sans rien voir, avec des mouvements vagues et flottants, comme en rêve.
Elle monta dans le fiacre, en descendit, se trouva dans la chambre de Jeanne, chercha machinalement un siège avant d'avoir pu ressaisir les oscillations égarées de son esprit et les avoir remises dans le rythme de la raison.
« Jamais nous n'aurions dû parler » faisait-elle en mots incohérents. « Après ce qu'il a dit des jeunes filles qui n'ont d'aventure que si elles les cherchent, à présent, comment le revoir ? Mon Dieu, me trouver en face de lui ! Mon secret n'est plus à moi ! Il ne pouvait rien arriver de pire. J'ai tout perdu. »
Jeanne, qui s'activait à rassembler ses objets de toilette, ne disait qu'un mot de temps à autre.
« Mais non, tout n'est pas perdu. C'est à lui maintenant de prendre l'initiative. Il vous écrira. Pas aujourd'hui, non. Il était positivement écrasé. Passez-moi mon peignoir. Là, sur le dos de votre fauteuil. À quoi vous attendiez-vous, Thérèse ? Pensiez-vous qu'il accepterait facilement un coup pareil ? Car c'est un coup. C'est comme si on avait brisé devant lui un objet précieux auquel il tenait beaucoup. » Elle tira sa montre. « Je vais sonner pour qu'on nous monte une tasse de thé. Ma pauvre petite, avons-nous fait une grande sottise ? Non, je ne crois pas, somme toute. Si cela devait mal finir, ça finit un peu plus vite, et de même, si cela doit bien finir, nous avons précipité le dénouement. » « De toute manière, vous auriez dû parler avant d'arriver au mariage. »«
Ah !» s'écria Thérèse, « vous pouvez discourir froidement. Mais moi, je l'aime. Vous ne savez pas comment je l'aime. Pas comme dans les romans, non. Pas pour moi, pour lui. Une tendresse, comprenez-vous ? Il est triste souvent, j'en suis sûre. Il est inachevé, incertain. Il a un pressentiment morbide.
Il vit solitaire et sans confort. J'aurais pu changer tout cela. Avec moi près de lui, il aurait pris confiance dans la vie. Il aurait donné sa mesure. Une autre femme saura-t-elle le comprendre comme je le comprends ?»«
Une autre femme, vous galopez, » fit Jeanne, qui tournait la clé dans la serrure de sa valise. « S'il vous aime, il viendra vous le dire. Demain, quand la première stupeur sera dissipée. Par contre, s'il a moins d'amour que d'orgueil, surtout s'il s'est fait de vous une image virginale à laquelle il ne peut renoncer... »«
Ah, Jeanne, épargnez-moi !» cria Thérèse d'un ton de détresse.
Et le thé arrivait, et il fallait faire les gestes habituels, se tenir droite, consentir aux petits soins de Jeanne, à l'eau de Cologne, à la poudre de riz.
« Vous voilà à peu près convenable pour venir à la gare, et vous m'écrirez très vite, n'est-ce pas ? Je vais vivre sur des charbons jusqu'à vos nouvelles. Pauvre Thérèse, je vous aime bien, vous le savez. Tout sera commode, croyez-moi. Vous n'avez plus qu'à attendre. » Attendre, l'horrible chose, le supplice que Thérèse n'avait déjà que trop connu, faudrait-il de nouveau le subir ?
« Le climat de Paris en été ne vous convient pas, » déclara Madame Dugas quand elle vit Thérèse, défaite et pâle, quittant la table du dîner, où elle était restée muette, mangeant à peine.
« Je suis fatiguée, je crois, » expliqua-t-elle. « Je prendrai congé du bureau pour un jour ou deux. »
Impossible de rester dans son étouffante mansarde, sous le toit surchauffé de 9h à midi par le soleil. Thérèse se promena jusqu'au but sur Chaumont, rentra déjeuner, essaya d'une sieste sur son lit. Marc Mongeon avait eu toute la matinée pour lui écrire. Que se passait-il dans le bureau silencieux, dans la grotte où les fougères avaient soif? L'habitude, ce lien tenace qui ne fait mal que si on le rompt, tirait obstinément l'esprit de Thérèse vers son travail, vers les bonnes heures régulières et paisibles qui auraient dû couler d'un flot égal parmi les récifs des gros bouquins. Aucune lettre n'arriva ce jour-là, ni le lendemain. Le troisième jour, un brave homme qui faisait les courses du bureau apporta à Thérèse une missive de ses patrons. « Mademoiselle, écrivait le plus jeune associé de la firme Delacroix, nous serions bien aises d'avoir les trois dernières pages du guide en cours d'impression. » Nous y comptions pour hier, mais vous n'êtes pas venu au bureau. Si vous préférez travailler chez vous, nous n'y voyons aucun inconvénient, pourvu que ce travail avance. C'est à moi-même que vous voudrez bien remettre votre copie au fur et à mesure de son achèvement. Par intérim et pour quelque temps, je serai de nouveau le secrétaire de cette publication. Notre employé, M. Marc Mongeon, nous ayant demandé de prendre ses vacances dès aujourd'hui pour aller en Suisse. « Nous osons espérer, mademoiselle, que vous voudrez bien tenir bon encore quelques semaines et finir la série des cathédrales du centre, impatiemment attendue par les libraires. Si vous pouvez passer demain matin au bureau, j'y serai dès 9h et nous pourrons mettre au point le programme de ce qui vous reste à faire avant le mois d'août. » Et des civilités même aimables. On tenait à Thérèse, semblait-il. Il était parti. Il fuyait plutôt que de revoir Thérèse. Sans un message. D'un geste, colère ou mépris, il rompait. Pouvait-on être plus cruel ? Et dans un tel désarroi, meurtri, désespéré, il fallait se remettre au travail. Elle s'y remit, car dès son enfance d'écolière, elle avait connu la discipline du labeur régulier et quotidien. Elle savait qu'un typographe attendait ses pages. Puisque Marc Mongeon était parti, le bureau n'était plus ce paradis défendu, au bord duquel se dressait un homme déçu et irrité. C'était un bureau comme un autre, banal, solitaire. Elle retourna s'y installer le lendemain matin, refit son programme, divisa les cathédrales du centre en tâches journalières et se fixa une date pour mettre le point final. Elle ne voyait plus que cela dans la vie, écrire des pages pour gagner son pain. Le soir du même jour, ayant poussé sa petite table sous la lucarne de sa mansarde pour respirer un peu d'air tout en écrivant à Jeanne Black, elle fut dérangée par l'entrée de Beaupastel qui lui dit d'un ton assez froid « Pouvons-nous causer un instant ?»«
Certainement. Asseyez-vous. » »«
Sans autre préambule, je viens vous demander ce que vous avez fait à mon cousin, » prononça la jolie fille, d'ordinaire si gracieuse, mais pour l'instant sévère comme un juge. Thérèse ne répondit pas. Elle regardait la lettre commencée sur son buvard et la phrase qu'elle venait d'écrire. Il est parti plutôt que de me revoir.
J'ai passé à son bureau dans l'après-midi, persista Beaupacel. J'avais une commission à lui faire. Un jeune homme, un des patrons, je crois, m'a dit que Marmaujon était parti en vacances. C'est bien subi. Il n'a même pas laissé un mot pour moi. Nous devions rentrer en Suisse ensemble dans 3 semaines.
Inutile de me questionner, fit Thérèse d'une voix indistincte.
Vous ne savez rien ?
Je n'ai pas dit cela.
Ah, je devine. Vous l'avez mené au bout du fil et puis vous l'avez lâché. Vilaine !
Non, je ne plaisante pas, je vous trouve extrêmement vilaine. À force de tergiverser...
Dites tergiverser si cela vous plaît. Dites plutôt que nous n'avons pu nous décider ni l'un ni l'autre. Cela vous suffit-il comme explication ?
Je sais bien, dit Beaupacel d'un ton radouci, que Marc est exaspérant avec ses indécisions. Je vous l'ai dit, il a besoin d'être, pour ainsi dire, mis au pied du mur.
Je l'ai fait ! S'écria Thérèse. « Vous voyez le résultat !»
Beaupacel se dirigea vers la porte.
« Il vaut mieux que je m'en aille, » dit-elle. « Je demanderai à en savoir plus long et je n'en ai pas le droit. Peut-être, quand je reverrai mon cousin, me fera-t-il une confidence ?»«
Non, non !» supplia Thérèse en elle-même. « Marc, gardez-moi mon secret !»«
Non, que personne dans notre pays ne sache rien de ce qui m'est arrivé !»
Il me semble que j'entends mon histoire voler de bouche en bouche, et avec quels commentaires, mon Dieu! Je n'aurai plus qu'à m'exiler pour toujours.
Marc, j'implore au moins cette faveur. Ne me trahissez pas. Vous êtes trop noble et trop loyal pour me trahir.
Beaupacel restait sur le seuil. Elle dit à demi-voix,
Thérèse, sincèrement, est-ce bien fini entre vous et mon cousin?
Sincèrement, je n'en sais rien moi-même. C'est à lui de prendre une initiative à présent. Il est peut-être parti pour y réfléchir.
La jolie artiste poussa un éclat de rire moqueur. Il ne s'y lance pas tête baissée, fit-elle.
Thérèse acheva sa lettre à Jeanne par ces mots.
Je crois bien que c'est fini. Pour la seconde fois, on m'abandonne.